Alors, on va reprendre. Alors, on va aborder notre point 2, le fils, figure de médiation. Et on va dire qu'il est possible d'envisager le fils comme figure de médiation, voilà, en raison même de l'unicité dans le fils, c'est-à-dire l'échange entre le père et le fils. Donc, je vais répéter, on peut considérer la figure de médiation qu'est le fils en raison même de l'unicité en sa figure, c'est-à-dire de l'échange entre le père et le fils. Et c'est parce qu'il y a un échange entre le père et le fils qu'on peut envisager l'unité dans la figure. Et vous voyez bien que l'unité, c'est vraiment... on ne fait pas de théologie en dehors de l'unité. Si on comprend les choses en dehors de l'idée d'unité, on ne comprend plus, en fait. L'unité, on la retrouve dans toute dimension théologique. Donc, la nature unique du Fils, justement en raison même de cet échange entre le Père et le Fils, eh bien, cet échange va donner le caractère unique de sa manifestation. Sa manifestation, pour le dire autrement, est unique en raison même de cette unicité en lui, c'est-à-dire dans le Fils, dans cet échange en lui. Ce n'est pas simplement une manifestation extérieure, mais la manifestation de Dieu en son Fils est comprise comme révélation parce qu'il y a dans cette manifestation une unité entre le Père et le Fils, un échange entre le Père et le Fils. Donc lorsque la figure du Christ, en tant que figure manifestée, figure de médiation manifestée, lorsque cette figure-là, elle va se trouver livrée à la multitude, Jésus se retrouve, dans le temps qui est le sien, au milieu des hommes, au milieu des siens, à un moment plutôt tardif de sa vie, eh bien, son humanité va révéler aussi la singularité, c'est-à-dire cette singularité va se révéler dans sa manière d'être homme, c'est-à-dire sa manière, pour le dire encore autrement, sa manière d'être homme va se révéler être singulière par rapport à la manière d'être homme des autres, voyez. Donc il y a une singularité dans sa manière d'être homme, et cette singularité, elle va se manifester à plusieurs moments, y compris lors du baptême de Jésus, lors de la transfiguration, lorsque on entend le Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, on va comprendre à ce moment-là, en tout cas pour ceux qui entendent cela, il leur est donné de comprendre à partir de cette phrase dite, entendue, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », ils vont, ça va être des éléments pour eux de comprendre l'unité entre le Père et le Fils. Donc le Père se manifeste en révélant son Fils. Donc on voit bien que dans le Nouveau Testament, l'action du Père, elle se met aussi en œuvre à des moments de la vie de Jésus, à des moments particuliers. Lorsque Jean le Baptiste, lorsque Jésus demande le baptême par Jean le Baptiste, là aussi, on entend cette Dieu s'adresse, enfin en tout cas, on entend celui-ci est mon Fils bien-aimé, et également au moment de la transfiguration. Donc ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas éteinte, n'est pas, c'est comme si l'émetteur n'est pas coupé, l'émission n'est pas coupée. Quand il dit « Écoutez, celui-ci est mon Fils bien-aimé », Dieu continue de se révéler en son Fils, et il révèle le Fils, précisément. Ça veut dire que la manifestation de Jésus, c'est une manifestation vivante et agissante. Et donc, elle va se trouver être une figure, donc Balthazar dit que c'est une figure, mais que cette figure-là va se trouver entremêlée dans les autres figures du monde. Et quand Balthazar dit cela, eh bien, il nous fait comprendre que la figure du Christ médiateur assume pleinement, dans la caractéristique qui lui est propre, et dans la caractéristique de sa personne singulière, il va pleinement être dans son action pour l'homme, être homme dans son action pour l'homme. Je ne sais pas, j'explique peut-être mal les choses, mais de dire que sa figure en tant que nature humaine va s'entremêler dans les figures du monde dans lequel il est. Ça veut dire que ce n'est pas une figure qui serait juxtaposée ou supérieure. Il entremêle, c'est comme s'il entrait dans le tissage du monde. Donc ça, c'est important parce que cela nous montre qu'il assume vraiment sa nature humaine pour pouvoir parler le langage de l'homme et pouvoir venir, non pas à notre niveau, mais parce que ce n'est pas le supérieur qui vient au niveau de l'inférieur, mais c'est être vraiment homme parmi les hommes. C'est ça l'idée de figure qui s'entremêle dans les autres figures du monde. Ça veut dire qu'il y a en Dieu un déploiement et que le reploiement, il a lieu en Jésus-Christ. Donc il y a, on pourrait dire, qu'il y a un rapport absolument indissociable entre la figure et l'acte de la figure. Et l'acte de la figure, c'est comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, agit et met en œuvre par la force et la puissance de l'Esprit-Saint, déjà les œuvres de salut dans le monde dans lequel il vit. Déjà là, en soignant, en nourrissant, les miracles, la multiplication des pains, tout ça, ce sont des signes de la présence du royaume. Et donc, ces actes-là, l'acte et la figure, attestent ce qu'il est. C'est parce qu'il est figure de médiation que l'acte qu'il pose est un acte efficace. Et Balthazar dira que la figure du Fils de Dieu est là pour marquer son empreinte sur d'autres figures. Tout réside dans ce processus, et c'est pourquoi il est non seulement difficile mais impossible de considérer le sceau en lui-même avant l'acte par lequel il s'imprime. Alors on comprend mieux avec sa dernière phrase, c'est à partir de ce qu'il fait que nous voyons ce qu'il est. Parce que ce que fait Jésus est visible par tous. Donc ça veut dire que l'acte est compris et on comprend par l'acte que pose Jésus ce qu'il est en sa nature humaine, mais surtout en sa nature divine. C'est-à-dire que l'acte qu'il pose est un acte qui est immédiatement efficace. La femme hémorroïde touche la frange de son manteau, elle est immédiatement guérie. Et d'autres exemples que vous connaissez bien. Donc dans ce texte de Balthazar, on pourrait vraiment retenir ou surligner le fait que la figure est là pour. Ben oui, la figure, elle est là pour nous sauver. Et du coup, ça nous permet de comprendre que l'acte que pose Jésus-Christ fait partie de l'essence même de la figure, ça veut dire de son être même, de ce qu'il est. Il n'y a pas lui et l'acte qu'il va poser. Ce qui fait dit ce qu'il est, nous dit Balthazar, et ce qu'il est justifie, et ce qu'il fait justifie ce qu'il est. Voilà. Donc tout indique qu'au centre même de la figure du Christ médiateur, il n'y ait pas de hiérarchie, il n'y ait pas d'autorité, de préexistence d'autorité. Et c'est parce qu'il y a, il n'y a pas de préexistence d'autorité, donc d'égale procession dans la Trinité, que la figure de Jésus-Christ est pleinement trinitaire. Voilà. La figure de médiation est pleinement trinitaire. Voilà. Les réalités divines s'accomplissent par la nature humaine et divine du Christ. Donc l'acte d'incarnation dans la figure de médiation est aussi à comprendre, et ça va nous permettre de comprendre l'incarnation, à comprendre comme le passage de la figure à prendre figure. Vous voyez ? La figure du Christ, fils de Dieu, à un moment donné, a pris figure. Voilà le terme prendre figure, prendre chair, s'est incarné. Ce qui était de Dieu est devenu chair. Et ce qui est chair en Jésus-Christ est de Dieu et est Dieu. Le Verbe s'est fait chair, nous dit Jean, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Ça veut dire que cette gloire, cette figure-là, elle est inscrite dans le monde. Vraiment dans le monde. Et dans un milieu d'expérience qui a été donné à l'homme, précisément, de rencontrer Dieu et de le connaître et ensuite de le reconnaître. C'est de là où Balthazar, quand il dit que la figure du Christ, la figure de médiation, a pénétré et marque de son empreinte les figures du monde, c'est cela qu'il veut dire. C'est que précisément, la figure de médiation a permis aux hommes, dans l'histoire de la Révélation, de rencontrer Dieu et de faire l'expérience de cette rencontre-là. Et faisant l'expérience de cette rencontre, ces figures humaines que nous sommes toutes et tous sont marquées de la figure de médiation du Christ. C'est-à-dire que nous portons aussi par notre baptême quelque chose de cette médiation qui est de l'ordre de l'incarnation de Dieu pour les hommes en vue du salut. C'est que nous, on n'est pas en dehors de ce mouvement-là. Donc, la figure du Christ médiateur doit être envisagée comme apparition. Ça, c'est le grand mot de Balthazar. Apparition. Mais aussi comme perception. Ce qui apparaît doit être reçu. Et pour être reçu, il faut le percevoir. Et pour le percevoir, c'est une expérience qui est donnée à l'homme. Voilà. Et donc une expérience pour celui qui perçoit et qui accueille la figure dans la foi. Tout ce que je vous dis là, on ne peut pas l'accueillir en dehors de la foi. C'est-à-dire que, tout au mieux, on l'accueillerait d'un point de vue intellectuel ou conceptuel, mais on voit bien que sans la foi, à un moment donné, on ne peut pas. On quitte la dimension intellectuelle et conceptuelle, parce que ça ne correspond plus. La question du sens, il est précisément donné par la foi elle-même. Donc cette figure, elle est reçue dans le milieu constitué par la foi de l'Église. Voilà, c'est dans la foi de l'Église que l'on peut recevoir cela. Et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, l'Église a cela de particulier, qu'elle est à la fois le sujet et l'objet de son propre discours. Elle parle d'elle-même, l'Église. En ecclésiologie, ça c'est un grand paradoxe. L'Église parle d'elle-même. Elle est le sujet et l'objet de son propre discours. Alors j'avais noté que la fonction même de la figure du Christ médiateur est doublement déterminée. Elle est d'abord déterminée par la marque qu'elle inscrit dans les figures. Ça, je vous l'ai dit, les figures qu'elle vient rencontrer et sauver, et qui attestent que la figure de médiation n'est pas une figure extérieure. C'est important, parce que si elle marque de son empreinte dans nos figures, ça veut dire qu'elle est vraiment venue assumer notre nature humaine. Voilà. Et donc ça, c'est une des conditions. Ce n'est pas une image extérieure à nous. Qu'ensuite, l'histoire du salut manifeste sa fonction unique de médiation précisément dans la figure du Christ. Il faut donc revenir au centre, ça c'est vraiment le retour au centre, ça c'est vraiment quelque chose qui est dans la théologie de Balthazar. Le Christ, fils de Dieu ressuscité, dont la figure est fondée sur une quadruple dimension, une quadruple attestation, je vous les donne. Le Christ, fils de Dieu ressuscité, donc la figure du fils de Dieu ressuscité est fondée sur une quadruple attestation. La première attestation, c'est le témoignage du Père. Ensuite, c'est le témoignage de l'Esprit. C'est le salut qui doit être accompli pleinement par le Fils. Et ensuite, c'est le cosmos, mais en tant que création. Alors, vous voyez, c'est intéressant ça, parce que lorsque Balthazar nous parle du cosmos en tant que création, c'est comment on revient au commencement. C'est-à-dire comment, en Jésus-Christ, de la révélation, c'est-à-dire de la création jusqu'à l'accomplissement en Jésus-Christ mort et ressuscité, la révélation est accomplie, la révélation est close. Donc, il y a une attestation qui fait que la révélation est close en Jésus-Christ. Témoignage du Père dans la figure, témoignage de l'Esprit dans le Fils, donc on a vraiment une attestation trinitaire. Le salut qui est la raison même de la révélation de Dieu, et dans la création, comme pour intégrer à nouveau toute la création dès le commencement. Balthazar dit que tout cela est intérieur à son essence, et donc c'est intérieur à la figure. Il nous dit « La figure de Jésus est attestée en tant que figure, non de l'extérieur, mais de l'intérieur. » C'est-à-dire que le témoignage fait d'elle, donc le témoignage fait de la figure avant toute chose, la figure qu'elle est, à savoir la manifestation de Dieu, le témoignage que Dieu se rend à lui-même. Quand il dit le témoignage que Dieu se rend à lui-même, eh bien ça nous montre bien que ce n'est pas extérieur à Dieu, que la figure du Christ n'est pas une figure extérieure à Dieu. C'est bien la figure intérieure à Dieu qui se donne et qui se manifeste en vue du bien et en vue du salut. Donc l'accomplissement est la manifestation du Dieu invisible. Voilà. Ça va ?
La révélation est close dans...
En la résurrection du Christ. Voilà, dès l'instant où le Christ est ressuscité, où il retourne vers le Père, puisque la venue du Fils dans son incarnation est de toute façon appelée, le Fils est appelé au retour vers le Père, dès le commencement. Il était dès le commencement, je ne me souviens plus, je crois que j'avais mis cette phrase-là, on sait que l'Esprit soufflait dès avant la création, mais on a une phrase de Nouveau Testament, je ne sais pas où je l'ai mise, parce que je ne l'ai pas lue, parce que je dis des choses que j'ai écrite, mais des fois qui m'échappe parce que je suis pas tout à fait mon papier, même si je suis le plan de mon papier, où effectivement le Christ est destiné, le Fils, l'incarnation du Fils, et le Fils est destiné au retour vers le Père. Voilà, c'est ça. Mais je ne vous laisserai pas seul, dit Jésus, je vous enverrai le Paraclet. C'est-à-dire que là, l'envoi du Paraclet, c'est encore la surabondance d'amour de Dieu et du Père et du Fils dans l'action de l'Esprit qui ne laisse pas les hommes seuls et dépourvus. D'ailleurs, avant que les disciples, avant que Pierre n'ait vu le ressuscité, eh bien, ils étaient enfermés au Cénacle, ils avaient peur. Donc ils étaient dans un temps qu'on pourrait qualifier pour eux-mêmes qui était de la non-foi. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient perdu la foi, mais eux-mêmes, ces trois jours où Jésus-Christ est aux enfers, représentent pour eux le temps où la foi est en suspens, où la peur vient recouvrir la foi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? Si l'accomplissement est la manifestation du Dieu invisible, puisque c'est là, je vous ai dit, l'accomplissement est la manifestation du Dieu invisible, alors par Jésus-Christ, mort et ressuscité, il va s'opérer en chaque homme la possibilité d'être à son tour une figure de médiation. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comment nous-mêmes nous sommes entraînés, comment nous-mêmes nous sommes rendus participants aussi de la médiation. Nous sommes, voilà, il y a une dynamique dans laquelle nous sommes entraînés. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de la même dynamique que celle du Fils envers le Père et vice-versa, bien entendu. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas figure de médiation nous-mêmes en tant que figure du Dieu invisible, sûrement pas, mais nous sommes témoins dans la rencontre que nous avons faite de Dieu. Nous sommes aussi, à notre manière, des figures de médiation. Et l'Église est, en tant que telle, médiation du Père, du Fils et de l'Esprit, précisément dans les sacrements. Les sacrements sont des médiations par lesquelles nous allons vers le Père, par le Fils et par la puissance de l'Esprit. Voilà. Les sacrements sont des médiations. Et l'Église, ces sacrements qui sont précisément offerts, donnés dans l'Église et pas ailleurs, font de l'Église, comme l'Église fait les sacrements, vous voyez bien, c'est des allers-retours, l'Église est précisément médiatrice. C'est par l'Église que nous allons aussi vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit, parce que dans l'Église, nous avons accès à l'Écriture, dans l'Église, nous avons accès aux sacrements. Voilà, je ne sais pas que vous dire... Ouais, mais tout ça, on est tous d'accord avec cela. Mais vous voyez bien, le quatrième temps de l'Église, de notre messe, c'est l'envoi. Nous sommes ensuite envoyés. Et donc, au titre même de cet envoi, nous sommes aussi, à notre manière, des médiations. Et au nom de notre baptême, nous sommes aussi ces figures de médiation dans le monde. Alors c'est Henri de Lubac, que vous connaissez bien, Henri de Lubac, 1896-1991, cite dans son livre qui s'appelle « Les chemins de Dieu », il va citer Théodore de Régnon, et il dit « Le Créateur a dispersé sur les créatures les reflets de ses perfections divines, et que grâce à ces lumières visibles, nous pouvons connaître par voie d'analogie » voilà, ça c'est aussi un grand thème théologique, par voie d'analogie, les splendeurs inaccessibles du Créateur. Voilà. Il a dispersé sur ses créatures les reflets de ses perfections. Donc nous en sommes responsables, d'une certaine façon. Voilà. Donc en se donnant, la figure du Christ médiateur marque précisément de son empreinte chaque homme dans la foi. Et peut devenir à son tour une figure de médiation dans le tissu des autres, ces figures. Et ces médiations se rendent visibles dans la figure de la parole, qui va s'accomplir dans la figure des sacrements, à l'intérieur même de la figure de l'Église. Vous voyez, c'est ça aussi les figures qui sont tissées. Figure de la parole, figure de sacrement, figure de l'Église. Et dans chacune d'elles, dans chacune de ces figures, il y a quelque chose de la vie de Jésus, voilà, qu'il a laissé en héritage. Et puis ce n'est pas la vie avec un petit V, hein, c'est vraiment la vie de Jésus avec un grand V, c'est-à-dire quelque chose de sa bonté, pour reprendre les trois transcendentaux de saint Thomas, de sa beauté, enfin lui, de sa bonté, de sa beauté et de sa vérité. Voilà. Balthazar, lui, il va inverser les choses, il va mettre la beauté avant. Beauté, bonté et vérité. Et donc, on va pouvoir parler d'efficacité de la figure. Votre parole vous-même est efficace. Voilà, d'efficacité de la parole et d'efficacité des figures médiatrices. Prétendre à une figure propre qui puisse entrer en concurrence avec celle du Christ, la figure fondamentale de la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre parole est efficace aussi par la grâce du Christ lui-même. Lorsqu'elle est efficace, ce n'est pas efficace de nous-mêmes, mais de l'Esprit-Saint que nous avons reçu à notre baptême et qui travaille en nous en vue de l'efficacité. Donc l'efficacité des figures n'a bien sûr rien de comparable à l'efficacité analogique de celle du Christ, on est bien d'accord. Mais nous avons reçu, nous sommes participants de cette efficacité, c'est parce que les figures médiatrices ne sont pas extérieures à la figure du Christ que la fonction médiatrice de la parole peut être efficace. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, je suis sûre que vous, que ce que vous ne comprenez pas intellectuellement, vous le comprenez par intuition. Hein ? C'est ça, je pense.
C'est un tel bazar qu'on ne peut pas comprendre avec l'intuition.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est pas un bazar, Balthazar.
C'est un sacré bazar.
Ouais. Mais quand on comprend Balthazar, il y a quelque chose de, quelque chose de l'ordre de la révélation qui se passe aussi. Mais peut-être qu'il faut en passer par le chaos, hein, comme à la création. Il faut en passer par le chaos, y compris pour nous, quand on ne comprend pas trop les choses, et que parfois notre foi nous... parfois l'intuition, la bonne intuition de notre foi vient parfois concircuiter la compréhension intellectuelle. Et qu'il arrive un moment où on doit rééquilibrer les choses, où comment comprendre intellectuellement va nourrir notre foi, et comment notre foi va nous permettre de comprendre intellectuellement. Et je pense que, oui, Balthazar, il peut être vraiment, confus et même confondant, mais il y a d'autres théologiens qui le sont. Je vois Karl Rahner, il a des phrases qui font 20 lignes, 30 lignes. Il va procéder Karl Rahner, c'est comme une locomotive qui avance, donc il part d'une idée, elle avance, et c'est comme une locomotive qui avance, et puis il y a des choses sur la voie, et puis il va éjecter à droite, éjecter à gauche, et la locomotive, elle trace son chemin. Parce que quand il part d'une idée, Karl Rahner, il va dire « si ce lit, si ceci est ceci, alors cela doit être cela. Et si cela est cela, alors ceci est comme ça. » Voilà, c'est toujours comme ça, Karl Rahner. Et au bout du compte, on est épuisé à la fin de la phrase. Parce qu'on a un stylo et qu'on essaye de voir les connecteurs logiques. Voilà, alors il part d'un truc et on se dit « bon, bah, finalement, au bout du compte, il aurait pu. » Mais vous voyez bien que ça nous aide à réfléchir, en fait. Voilà. Comment on peut faire de notre foi une foi qui peut être mature? La foi n'a pas besoin de la théologie, hein, on est d'accord. Hein, mais si vous êtes là, c'est que quelque chose en vous a envie de savoir comment on peut dire autrement la foi. Et comment on peut l'exprimer autrement que par l'intuition. Et que l'intuition, elle est nécessaire, même en théologie. S'il n'y a pas de spéculation en théologie, alors on est apologète, c'est-à-dire qu'on est théologien en œuvrant de la preuve. Ben non, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Mais vous avez raison. En fait, je dirais, c'est comment... je regarde l'heure. Comment on peut mettre du chaos dans notre... comment on peut mettre de l'ordre dans notre chaos, plus exactement. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour la conclusion ? C'est d'abord de dire que l'incarnation, pour ça, je vais le lire parce que ça vous permet de ressaisir un peu les affaires. L'incarnation est un acte d'extériorisation du Père en son Fils par la puissance de l'Esprit. Ça, si vous avez noté ça, après c'est très bon parce que vous pouvez intégrer l'incarnation comme dans la théologie de la Trinité pour bien comprendre la Trinité. L'incarnation est un acte d'extériorisation du Père en son Fils par la puissance de l'Esprit. Et donc, l'incarnation est un acte trinitaire. Dans l'unicité de l'Esprit du Père et du Fils. Donc, on ramène tout à l'unité, l'unicité. Et donc, dans cette unicité, l'unicité, on doit la comprendre comme don, comme union, et comme onction. Donc l'incarnation est un acte trinitaire dans l'unicité de l'Esprit du Père et du Fils, comme don, comme union et comme onction. Jésus-Christ est l'envoyé du Père pour le salut de tous les hommes, hein, je redis que des choses que vous savez et que j'ai déjà dites. Il pourrait avoir le statut des autres envoyés de l'Ancien Testament, le précédent d'un point de vue chronologique, hein, mais il n'en est rien. Le Christ n'est pas analogiquement le même que celui de l'Ancien Testament, parce que le Christ n'est pas de la même lignée que les prophètes. On est d'accord avec ça ? Alors, de quelle façon Jésus-Christ est donc à part ? Eh bien, si les prophètes sont des envoyés, ils sont pris eux-mêmes dans les actions symboliques de leur existence personnelle. On est d'accord avec ça ? Alors que Jésus, et par exemple eux, ils ne vont pas s'identifier à la mission qu'ils ont reçue de Dieu. Alors que Jésus, quand je dis il s'identifie à la mission, c'est qu'il est lui-même, enfin quelqu'un me posait la question là à la pause, Jésus est lui-même la mission. Il est la mission en tant que tel. Ce que je dis souvent, c'est que Jésus est le message en même temps qu'il est le contenu du message. Il n'y a pas lui et la mission n'est pas extérieure à lui. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il est mission et qu'il y a précisément une mission. Donc il est en lui-même la mission, il est en lui-même sa réalisation et par lui-même il est son accomplissement. Et donc sa mission, c'est de révéler et de manifester le Père qu'il envoie pour le salut du monde. Il est le Seigneur et il est le Sauveur. Il est le médiateur du Père et à son tour, il envoie les apôtres. Alors, voilà, médiateur du Père et à son tour, il envoie les apôtres. Alors, pour vous faire plaisir, monsieur, je vais dire par un texte de Balthazar. Voilà, dans la dramatique divine, dans les personnes du drame, où Balthazar dit l'unicité, hein, c'est pour finir vraiment sur l'unicité, hein, l'unicité de la personne de Jésus vient s'exprimer par la double unicité de sa relation trinitaire au Père et du but sotériologique de sa mission. Donc sotériologique dans le but de sauver, hein, soter, hein, c'est qui sauve, hein. Sotériologique, c'est sauver. Sauver. Sauter. Je peux l'écrire là, sauter. Sauter, et en grec, ça va être. Je crois que c'est un sauter. On peut l'écrire de deux façons, comme ça, et on peut l'écrire comme ça. Voilà, sauter. Qui sauve ? Donc quand vous lisez sotériologie, c'est le salut, c'est sauver. Voilà. Donc l'unicité de la personne de Jésus vient s'exprimer par la double unicité de sa relation trinitaire au Père et du but sotériologique de sa mission. Et alors, les deux choses ne sont pas juxtaposées sans relation. Au contraire, la liaison intime de l'envoyé avec celui qui l'envoie possède la forme de l'obéissance au sein de l'acte de don du Père. Le Père est celui qui envoie et qui, par l'acte de mission, fonde toute l'existence de Jésus sur terre, en assume la responsabilité et l'accompagne, détermine enfin d'avance son but, le salut du monde. C'est pourquoi la connaissance que Jésus a de lui-même coïncide avec la connaissance de sa mission. Voilà, il n'y a pas de séparation. Il y a une coïncidence, la coïncidence des volontés. C'est ce qu'on a dit, j'ai dit au début. La coïncidence, il y a la volonté du Père coïncide avec la volonté du Fils. C'est pour ça que la notion d'obéissance que nous avons nous-mêmes n'est pas l'obéissance, enfin, de dire autrement, l'obéissance du Fils au Père ne doit pas se comprendre de la même façon que nous comprenons nous-mêmes l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance d'une autorité qui viendrait surplomber un subordonné. Voilà, l'obéissance du Fils est d'abord une obéissance d'amour. C'est d'abord la procession d'amour du Père et du Fils au Père par l'action de l'Esprit que l'obéissance est possible. Mais nous ne pouvons pas comprendre le terme d'obéissance autrement que par analogie par rapport à ce que nous connaissons de l'obéissance. Mais il faut bien se dire que l'obéissance du Fils ne vient pas, ne doit pas se comprendre comme celui qui est inférieur et qui obéit à un supérieur. Voilà, c'est ça qu'il faut... Voilà. Et donc, j'avais noté que la prochaine fois, on va parler du mystère pascal. Au prochain cours. Voilà, après les vacances. Et donc, voilà, après les vacances. Alors, sûrement que je redirai des choses, mais j'ai une pédagogie de la redite. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai appris les choses en me les rabâchant, donc j'ai tendance à les faire aussi. Passez de très bonnes vacances et on se revoit le 7 novembre. Stop.